Mémoire d'un continent.
Elikiem Bokolo.
Cette émission vous est présentée en partenariat avec l'UNESCO.
Enseigner l'histoire de l'Afrique hors d'Afrique, la Belgique. L'histoire générale de l'Afrique en est à un stade où on ne la présente plus. C'est sans aucun doute la tentative intellectuelle la plus aboutie de ce point de vue si on la compare avec les autres projets d'histoire générale, par exemple celle de l'Europe, qui se fait remarquer par les divergences fondamentales, disons, d'origine nationale, celle de l'Amérique qui est rendue impossible par les divers génocides qui ont eu lieu depuis la fin du 15e siècle, celle de l'Asie qui là aussi est impossible parce qu'il y a de grands états, des empires dans lesquels évidemment certains peuples ont été dominés par d'autres, et dans le cas de l'Afrique où pendant longtemps on a représenté ce continent comme, comment dire, un espace émietté avec des tribus, des groupes isolés les uns les autres, eh bien les savants, les spécialistes de ce continent et leurs collègues étrangers se sont rencontrés il y a déjà 50 ans aujourd'hui pour produire une œuvre unique, l'histoire générale de l'Afrique en 8 volumes plus les volumes annexes publiés sous l'égide de l'UNESCO, et aujourd'hui un comité a mis sur pied des modules pour en faire la pédagogie sous la forme formelle dans les écoles ou alors d'une manière informelle hors d'école. Nous sommes aujourd'hui à Bruxelles pour parler justement de la possibilité ou de la nécessité de d'enseigner cette histoire dans un pays comme la Belgique, dont on doit rappeler que ça a été une puissance coloniale très importante, puisqu'elle a possédé au cœur de l'Afrique l'actuelle République démocratique du Congo, et qu'elle a occupé aussi au nom de la Société des Nations et de l'ONU, le Rwanda et le Burundi. Avec nous un jeune professeur, on pourrait même dire aussi à la fois un savant et un activiste. Bonjour Calvin Soares.
Bonjour professeur.
Vous êtes professeur de sciences sociales, donc ça implique l'histoire, la sociologie, les relations internationales, l'anthropologie, l'économie politique, dans un grand lycée de la région bruxelloise, ici on dit l'Athénée Royale, à l'Athénée Royale de Nivelles, et vous êtes également engagé dans les activités sociales, puisque vous êtes le coordinateur du collectif Mémoire coloniale et lutte contre la discrimination. Donc on est véritablement au cœur du sujet, parce que qui dit mémoire coloniale renvoie évidemment à la manière dont l'histoire coloniale est aujourd'hui présente dans la mémoire des gens. Alors, d'un mot d'abord, comment se présente l'enseignement de l'histoire en Belgique, à l'Athénée où vous êtes, et en particulier, est-ce qu'aujourd'hui il est fait une place à l'Afrique? Quelle Afrique, de quelle période?
Alors d'abord, l'enseignement de l'histoire fait débat en Belgique depuis un certain temps, notamment en ce qui concerne le nombre d'heures consacrées à l'enseignement de cette matière dans les lycées, dans les collèges. Mais plus particulièrement, il y a un débat que nous sommes en train de porter aujourd'hui sur l'enseignement de l'histoire de l'Afrique en général et sur l'enseignement des liens historiques qui existent entre la Belgique et l'Afrique, plus précisément entre la Belgique, le Congo, le Rwanda et le Burundi, qui sont aujourd'hui les trois pays qui font un lien direct historique avec ce pays. Alors, malheureusement, la place qui est accordée à l'histoire générale de l'Afrique est très faible. Je ne parlerai même pas de l'histoire précoloniale. On ne l'envisage quasiment pas. Alors, il y a seulement dans le programme qui, il faut le dire, le programme qui parle de la colonisation et de la décolonisation n'est pas obligatoire. Donc, les professeurs ne sont pas du tout obligés d'aborder cette thématique. Et quand ils l'abordent, ils ont une large palette. C'est-à-dire que, alors normalement, pour quelqu'un qui connaît un peu l'histoire de l'Afrique, se dirait automatiquement, le professeur devrait aborder l'histoire coloniale que la Belgique a eue avec le Congo, le Rwanda et le Burundi. Ce qui n'est pas le cas dans plus de 90% des cas. C'est-à-dire que beaucoup de professeurs, de nombreux professeurs, préfèrent aller plutôt, lorsqu'ils décident d'enseigner cette histoire, d'aller parler de la colonisation en Amérique du Sud, ce qui est quand même un peu étrange quand on connaît les liens de près d'un siècle entre l'Afrique et la Belgique. Alors, il y a de plus en plus de tentatives de professeurs jeunes qui découvrent par l'intermédiaire de notre activisme, de l'activisme des associations africaines, cette partie de leur histoire, parce que c'est aussi leur histoire. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Ils mènent des initiatives individuelles comme celle que j'ai, pour laquelle on m'a invité la dernière fois, dans une école catholique, le lycée Sainte Famille ici, où j'ai fait une présentation pendant 2-3 heures d'un résumé de cette histoire coloniale entre la Belgique et l'Afrique. Et il faut dire que il y a des résistances au fait que cette histoire soit vulgarisée. Parce que là, on ne parle plus d'enseignement, dans la mesure où ce n'est pas enseigné. Il y a des tentatives, je vais dire, approximativement de 5 et 10% de profs qui se disent il faut qu'on l'enseigne et qui mènent un véritable programme visant, notamment en terminale, à enseigner cette histoire. Mais il y a encore du travail, notamment en ce qui concerne les politiques, parce que les politiques ont un impact considérable dans l'élaboration des programmes. Et aujourd'hui, il y a une réclamation visant à ce que l'enseignement colonial soit véritablement enseigné, qu'on consacre des heures en l'enseignement de cette histoire, parce que on plonge les enfants dans une certaine ignorance, pas seulement les enfants qui sont d'origine africaine, mais également les enfants d'origine belge ou européenne, dont c'est l'histoire, et malheureusement, qui ne la connaissent que plus tard, par exemple lorsqu'ils vont y participer au programme Erasmus, en Angleterre ou aux États-Unis. Et là, ils reçoivent cette histoire violemment en face parce qu'on le leur a caché ici, tout simplement.
Calvin Suarez, il y a quand même une sorte de paradoxe puisque nous sommes à Bruxelles. Lorsque vous circulez dans cette ville, l'Afrique est présente partout, c'est-à-dire les noms des rues, les noms des bâtiments, les monuments coloniaux, notamment la statue équestre du roi Léopold II qui était donc le propriétaire, si on peut dire, de l'État indépendant du Congo, c'est-à-dire la République démocratique du Congo aujourd'hui, de 1885 à 1908. Il y a donc une sorte de paradoxe entre la présence effective, matérielle et visible de l'Afrique partout, pas seulement à Bruxelles, dans toutes les villes belges, mais aussi, ce que vous disiez, la présence massive de l'immigration, mais en fait beaucoup d'enfants sont nés ici, l'immigration africaine, aussi bien venant de l'ancienne Afrique belge que d'autres régions de l'Afrique tropicale et d'autres venant aussi de l'Afrique du Nord. Ça fait donc quand même une masse énorme, à la fois en quantité et par la diversité sociologique. Est-ce que tous ces gens qui ont un lien avec l'Afrique, soit qu'ils aient été des anciens colons, soit des enfants d'anciens colons, et ces Africains qui sont ici et qui sont belges, est-ce qu'il y a une demande quelconque ?
Bien sûr qu'il y a une demande. Alors, il faut d'abord dire que le paradoxe dont vous parlez a été voulu. Dans la mesure où, quand on connaît l'histoire, et notamment la décolonisation, si on peut l'appeler ainsi, parce qu'il n'y a pas vraiment eu de projet de décolonisation de la Belgique vis-à-vis du Congo, elle a été rapide, et on va dire que les responsables politiques belges ont été sous le choc de cette indépendance qui est arrivée rapidement. Et donc, on va dire qu'il y a eu une certaine méchanceté, on va dire ça comme ça, vraiment une haine de ce qui s'est passé, et on s'est attaché à essayer d'effacer certaines choses. Et donc, malheureusement, dans les programmes, historiquement, c'est ce qui s'est passé. Mais aussi, quand on prend, vous parlez de l'espace public, quand on prend l'espace public, quand on prend les bâtiments, les monuments, les statues, donc il n'y a quasiment rien, à part le monument du Congo qui est au parc du Cinquantenaire, il n'y a rien explicitement qui renvoie à la colonisation. Alors qu'on sait que quand les touristes viennent à Bruxelles, par exemple, au niveau des édifices, de certains édifices, il y a toujours des écriteaux, des panneaux directionnels qui expliquent l'origine de l'édifice. Eh bien, pour la colonisation, il n'y a quasiment rien. Il y a une demande, pourquoi ? Parce que notre collectif, le collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations, organise des visites guidées. Parce que nous avons dit aux politiques, nous sommes allés les voir. Donc, nous avons toujours dit que nous voulons dialoguer avec le politique pour essayer de changer ces choses, parce que nous estimons que la méconnaissance de cette histoire est à la base d'un problème de désaffiliation citoyenne. Beaucoup de jeunes d'origine africaine n'ont pas un attachement à ce pays parce qu'ils estiment que ce pays méprise l'histoire commune qu'il y a entre eux. Et donc, lorsque nous avons commencé à faire ces visites guidées il y a 3 ans et demi, 4 ans, nous nous sommes rendus compte au début que c'était essentiellement une population d'ascendance africaine. Donc, on va dire que les personnes d'origine congolaise n'étaient pas seules à être touchées. Les personnes d'origine africaine en général, parce que cette histoire leur fait écho par rapport à leur histoire personnelle aussi, quand ils viennent d'anciennes colonies françaises ou anglophones. Et puis, petit à petit, depuis 2 ans et demi maintenant, la participation commence à être diversifiée. On voit beaucoup de personnes d'origine belge, des blancs, des américains, des flamands, des wallons, des gens même qui viennent de la communauté germanophone, hein, à la frontière allemande. Spécialement pour cette visite guidée, notamment lorsqu'il y a eu l'exposition Notre Congo au musée Bellevue. Donc, il y a une véritable demande. Et ces gens viennent nous dire, écoutez, moi je suis pétrifié quand j'entends tout ce que vous racontez, toute cette histoire qu'on nous a cachée, nous sommes pétrifiés. Et beaucoup de jeunes qui reviennent de leur programme d'Erasmus nous disent, moi c'est à Liverpool ou c'est à Londres que j'ai vu dans des musées ou que j'ai entendu dans des conférences parler de Léopold II de cette façon. Alors il y a eu aussi dernièrement le film Tarzan d'un réalisateur américain dont le nom m'échappe maintenant, mais qui fait référence à cette histoire, qui fait référence à Léopold II. Et donc les jeunes reçoivent ça de cette manière et ils viennent à nos conférences en disant il ne faut pas attendre le politique, il faut faire quelque chose nous-mêmes. Et donc c'est ce que nous avons décidé de faire. Nous avons décidé de commencer à organiser des événements de vulgarisation. Et c'est comme ça que c'est dans ce cadre qu'entrent les visites guidées, mais aussi des animations que nous faisons. Et maintenant, le collectif a décidé de créer une cellule de formation décoloniale, dans lequel il y a des programmes qui sont menés vis-à-vis des jeunes. Un seul exemple, on commence ce programme par une question. Qui suis-je ? En référence à l'identité et à l'aliénation du point de vue historique. Et donc ça, c'est fondamental. Il y a une vraie demande. De plus en plus, un seul exemple illustratif, la première visite que nous avons organisée, il y a eu 375 demandes. Nous avons dû la reporter et essayer de fractionner ce public pour l'accueillir petit à petit. Et donc aujourd'hui, nous avons en moyenne, à chaque fois, nous avons 3 parcours différents. À chaque fois que nous organisons une visite, nous avons en moyenne entre 20 et 30 personnes. Et ce sont des gens qui viennent de divers horizons. Donc il y a une véritable demande.
Calvin Soiret, c'est notre invité pour parler des problèmes que pose l'enseignement de l'histoire de l'Afrique hors d'Afrique et en particulier dans les anciens États colonisateurs. Parlons maintenant un peu peut-être de l'enseignement supérieur et de la recherche, puisque pendant longtemps, les universités belges à Bruxelles, à Liège, à Leuven, à Louvain-la-Neuve, ont eu des recherches d'histoire sur lesquelles on peut discuter, mais il y a eu des recherches d'histoire coloniale, d'histoire précoloniale, d'anthropologie. Vous-même, vous êtes dans un travail de recherche doctorale. Où est-ce qu'on en est à ce point-là ? Est-ce qu'il y a toujours le silence ? Est-ce qu'il y a des travaux orientés dans quel sens ?
Alors, le problème, effectivement, il y a cette grande tradition coloniale, hein, il faut le dire, donc d'enseignement de l'histoire dans les universités. Mais on va dire que le paradoxe dont on a parlé tout à l'heure à l'indépendance a aussi joué à ce niveau. Parce que après, il y a une sorte de vide. Aujourd'hui, quand on prend les grandes universités comme l'ULB, l'Université libre de Bruxelles, l'Université de Liège, l'Université catholique de Louvain, cette histoire, l'histoire de l'Afrique, n'est plus aussi enseignée comme elle l'était avant. D'ailleurs, les chaires d'histoire africaine ont été supprimées. Donc, de ce vide qui s'est instauré après les années 60, on est arrivé maintenant à des recherches, des jeunes chercheurs qui commencent à s'y intéresser, qui sont de différentes origines, mais qui ne s'intéressent pas spécifiquement à l'histoire de l'Afrique, mais plutôt au lien entre cette histoire et l'immigration ici. Et donc ça, c'est quelque chose qui commence à arriver petit à petit. Les premières recherches, c'est vraiment les années 90, la fin des années 90. Donc c'est dans ces années-là qu'on a commencé, grâce aussi au travail d'historiens, mais aussi de chercheurs en sciences sociales, d'origine africaine, qui ont commencé à étudier cette histoire. Et aujourd'hui, on a des chercheurs d'origine française, des chercheurs d'origine belge, des chercheurs d'origine américaine qui arrivent en Belgique et qui étudient cette histoire, mais du point de vue de l'immigration. Parce que on cherche à étudier l'immigration, les populations qui ont migré, mais aussi les générations qui descendent de ces populations qui ont migré, et l'impact de cette histoire sur leur vie ici. Je pense que la Belgique se grandirait de rétablir ces chaires d'histoire africaine dans les universités, du moins dans les universités publiques, parce que le politique a un pouvoir dans les universités publiques. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, nous sommes dans un monde qu'on dit globalisé, et nous sommes dans un monde où il y a des recherches qui se font sur l'origine de l'humanité, sur le grand projet de l'histoire générale de l'Afrique. La Belgique fait partie de l'UNESCO, à ce que je sache, et je peux vous dire que depuis que moi je vis en Belgique, il n'y a pas de grande vulgarisation de l'histoire générale de l'Afrique. C'est nous qui incitons les jeunes à aller acheter. Il y a eu, par exemple, une initiative dernièrement visant à commander des livres. C'est comme ça que moi-même j'ai pu acquérir certains volumes de l'histoire générale de l'Afrique, et heureusement que maintenant nous avons ces ressources sur le net et que nous incitons les étudiants à aller chercher. Mais il y a une illustration de ce manque, c'est qu'aujourd'hui, depuis le départ du professeur Antoine Kitungu, qui s'intéressait beaucoup à l'histoire, qui était chercheur et qui travaillait dans ce domaine, et qui est maintenant professeur à l'université de Lubumbashi, nous n'avons plus de référence, à part vous qui venez de temps en temps donner des conférences ici en Belgique, nous n'avons plus de référence en matière d'histoire vers qui nous pouvons nous tourner véritablement. Et donc, aussi bien chez les historiens d'origine belge que les historiens d'origine africaine, nous n'en avons plus. C'est le résultat de ce manque qui a été instauré et qui, je ne sais pas si ce manque a été voulu ou pas, mais nous, en tant qu'activistes, nous estimons que le politique doit prendre ses responsabilités et mettre les moyens pour que le projet, par exemple, de l'histoire générale de l'Afrique soit fortement vulgarisé, non seulement à travers des conférences, mais aussi à travers des capsules audio-vidéo, mais aussi de la vulgarisation par les livres, pour que les élèves et les étudiants puissent avoir le goût de la recherche et qu'ils puissent s'intéresser également à cette histoire qui nous est commune.
Une dernière chose, en peu de mots, on est frappé aussi par le fait que très régulièrement, lorsqu'il y a des événements politiques relativement graves, je pense au Congo, mais ça a été le cas aussi pour le Rwanda, pour le Burundi, on sent que dans la classe politique belge, l'histoire revient au galop parce qu'on l'évoque pour se positionner ou pour dire s'il faut intervenir ou pas.
Oui, alors là, il y a aussi un paradoxe, parce que on a parlé de tout ce manque de travail historique qui n'est pas fait en Belgique. Mais évidemment, lorsqu'il s'agit du Congo, du Rwanda ou du Burundi ou des Grands Lacs, toutes les grandes puissances se retournent vers la Belgique pour demander son expertise. Alors la Belgique est fière, au niveau de sa diplomatie, de dire, voilà, nous avons quand même un poids considérable vu la taille de notre pays. Mais, et c'est là le paradoxe, c'est que ce travail n'est pas fait. Mais pourquoi il n'est pas fait ? Eh bien, nous disons que la Belgique, les politiques belges envisagent ce côté du problème d'une mauvaise manière, dans la mesure où ils considèrent que ouvrir cette histoire à la connaissance peut amener à ouvrir des dossiers qui pourraient être compromettants pour la Belgique au niveau international. Mais nous disons que c'est faux. Nous pensons autrement. Nous pensons qu'aujourd'hui, la Belgique se dit garante de valeurs de démocratie. D'ailleurs, en 1830, avant même le projet de l'État indépendant du Congo, qu'est-ce qu'on nous a enseigné ici ? On nous a enseigné que la Belgique avait une des constitutions les plus libérales en matière de droits de l'homme, en matière de démocratie. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, sur la base de ces valeurs, ce pays n'est pas capable de regarder le passé sur la base de ces valeurs ? On a bien fait concernant les grands événements, que ce soit les grands massacres qu'il y a eu, le génocide des Juifs, que ce soit la collaboration. Il y a un travail qui a été fait par le CGS ici, qui est un centre historique important, qui a amené le politique à reconnaître sa responsabilité. C'est aussi être grand que de reconnaître les erreurs du passé.
Merci beaucoup à vous, Calvin Soares, pour cette entrée en matière. Nous poursuivrons évidemment le parcours des grands États européens, asiatiques, africains, américains, pour voir comment dans ces différentes situations, l'histoire générale de l'Afrique est enseignée, recherchée ou au contraire totalement occultée. Ici se termine notre émission Mémoire d'un continent, réalisation Olivier Raoul.
Cette émission vous a été présentée en partenariat avec l'UNESCO.